C'est intelligent des chrétiens. Ça dépasse tout. Bon. Alors, je referme la parenthèse, anti-chrétienne, pour revenir au sujet. Hein? Jacob ne peut pas aimer Ésaü, Ésaü ne peut pas aimer Jacob. Il y en a plus que Ésaü haït Jacob. Et comment on dit Jacob aime Ésaü? C'est clair? Ça, c'est le diagnostic de l'histoire. Il ne s'est pas prononcé. Alors, voilà la stratégie de l'histoire. On arrive au sujet. C'est que si la bénédiction matérielle va à Ésaü, les deux sont perdus. Il faut que la bénédiction matérielle aille chez Jacob, que Jacob prenne sur lui et les tâches de l'esprit et les tâches de la matière. C'est la seule solution possible à cette équation impossible. Et nous allons voir qu'il y a quatre personnages dans ces deux frères. Un Ésaü qui ne serait qu'Ésaü, c'est perdu. Parce que Jacob n'aura pas possibilité de vivre, d'exister, et Ésaü, à la fin de sa vie, c'est sa mort, et c'est fini. Hein? J'ai compris ce que je dis avec ces termes. Un Jacob qui ne serait que Jacob, c'est un échec dans la réussite provisoire et éternellement provisoire. Il n'y a que les tâches de l'esprit qui seront atteintes, et les tâches de la matière, on va les laisser au Chaï, égoïque. Okay? Deux autres niveaux. Un Ésaü qui se prend pour Jacob. Ça ne va pas réussir. Parce que l'homme de la matière, qui s'occupe des tâches de l'esprit, assassine l'esprit. Il projette dans l'esprit les lois de la matière. Et nous allons voir tout de suite que dans cette rivalité historique entre Ésaü et Jacob, c'est ce qui est arrivé à l'Église. Qu'est-ce que c'est qu'un curé? C'est un homme d'Ésaü qui parle comme Jacob. Ça ne trompe personne que lui. Quand j'entends un curé parler, ce verset me saute à la figure. La voix, c'est la voix de Jacob, mais les mains, c'est les mains des hommes. Vous connaissez ce verset? Voilà, c'est un Romain qui dit la Bible. Il n'y a pas plus impur que ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait de la Torah, la religion du Dieu vivant? Ils ont fait la religion d'un Dieu mort crucifié. Qu'est-ce qu'ils adorent? La mort, en disant c'est la vie. Les Romains. Vous avez remarqué ça? Et philosophiquement, c'est très grave. C'est ce qui se passe dans les universités, dans tout ce qu'on appelle les sciences humaines. On traite de l'homme comme si c'était un objet, avec la méthode expérimentale qui n'est légitime qu'en physique et en chimie. Vous avez remarqué ça? On projette sur l'esprit l'impersonnel de la matière et on assassine l'esprit. Ça, c'est Ésaü se prenant pour Jacob et se prétendant être soi-disant Israël. Le Romain, l'homme de la civilisation matérielle qui se prétend l'homme de la Bible. Il sort quoi? Un Jésus. Vous avez remarqué ça? Ou un Khaledi, enfin, c'est une autre histoire. Et leurs œuvres, ils sont habillés de la même manière. Je reviens à la quatrième possibilité, celle de Rivka. Si l'homme de l'esprit s'occupe des tâches de la matière, il va transfigurer la matière. Et c'est pourquoi pour Rivka, c'est très clair. Il faut que la bénédiction qui était prévue pour Ésaü aille à Jacob. Lui sauvera l'homme. Parce que si la bénédiction de la matière va à Ésaü, les deux sont perdus. Alors, voyez ce qui est arrivé dans l'histoire. Nous avons quatre personnages. Un Ésaü qui veut être Ésaü. Il est rouge et que ça. Ça, c'est l'Empire romain païen. Et tout ce qui lui ressemble. Ésaü qui est Ésaü. Un Jacob qui n'est que Jacob. C'est le juif du ghetto. Il y a un Ésaü qui se prend pour Jacob, c'est le chrétien. Et un Jacob qui a le courage d'avoir le nom d'Israël, ça c'est Israël. Vous avez vu à quel point c'est simple. Bien. Alors reprenez ce schéma, c'est le schéma d'Israël. Autant de fois que ça soit nécessaire, que vous arrivez à le comprendre clairement. C'est ça que ce chapitre nous enseigne. Vous avez compris? Et je pourrais vous donner par la suite énormément d'autres textes de la Torah qui nourrissent cela. C'est toute l'étude du monothéisme. Que Dieu est un et unique. Il n'y a pas le Dieu de l'esprit d'un côté et Dieu de la matière de l'autre. Dieu a créé ce monde-ci qui est ce monde-ci du monde à venir. Dieu a créé le corps de la personne humaine pour que son âme puisse exister sur Terre. Donc, dans ce cas, il y a ces deux tâches à résoudre selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire du point de vue de la. Alors, on arrive, j'ajoute une chose à dire. On arrive à ça. C'est qu'il y a ces deux tâches, les tâches matérielles et les tâches spirituelles. Dans les deux, on peut être ou tzadik ou rachat. C'est ça que vous comprenez. Il n'y a pas de prédestination à être tzadik ou rachat. Il y a des dons à être plutôt capable des tâches matérielles ou capable des tâches spirituelles. Mais dans les tâches matérielles, on peut être tzadik ou rachat. Dans les tâches spirituelles, on peut être tzadik ou rachat. Vous ne croyez pas qu'il suffit d'être un homme de religion ou d'être un homme moral. Et vous savez ça. Okay, il y a énormément de religions sur Terre. Est-ce que ça veut dire que tous ces religieux-là, c'est des tzadikis? Les Khouménis, c'est des tzadikis? Les Dominicains, c'est des tzadikis? Vous avez compris ce que je veux dire? C'est vrai qu'il suffit de faire semblant d'eux. Et de la même manière, vous croyez que tous les hommes voués à la matière sont des rechaïens? Qui a été le plus grand bienfaiteur de l'humanité? Celui qui a inventé l'aspirine? Ou celui qui répète sans y croire, tu auras ton projet pour toi-même pendant 2000 ans. Celui qui a inventé l'aspirine est un bienfaiteur humain. Vous savez ça, l'aspirine, entre autres choses, hein, ou la roue. Hein. C'est un bienfaiteur de l'humanité. Ou celui qui a inventé, je ne sais pas moi, le transfusion de sang. Bon. Un médecin qui s'occupe du corps fait plus de bien qu'un prêtre qui s'occupe de l'esprit et qui raconte des bêtises du matin au soir. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. C'est bien prêtre. Alors l'archiprêtre, c'est... Vous croyez vraiment que les sermons sur l'amour du prochain ont fait aimer quelqu'un dans le monde? Qu'est-ce qu'il y a eu comme massacre à cause de ce verset? Ils ont pris une croix, ils en ont fait une épée. Et c'est comme ça que ça marche. Et alors que, effectivement, il y a des héros des tâches matérielles qui sont des héros de l'humanité. Vous avez compris ce que je raconte là? J'espère que ça vous inquiète. Non, rassurez-vous, c'est vrai. Et puis, ça doit quelque part vous resituer à l'endroit. Alors, c'est ça le monde. Et alors il faut bien commencer. Nous avons dans la Gomara des enseignements très précis. Quelqu'un qui est voué à l'esprit est plus en danger que quelqu'un qui est voué à la matière, du point de vue de Tzadik Racha. Réfléchissez bien à ça. Alors vous voyez que la prédestination n'est pas du tout Tzadik Racha, mais les tâches matérielles ou les tâches spirituelles, ça c'est des dons que nous recevons à la naissance. Alors, je vous rappelle l'équation. Nous avons en présence deux candidats à être Israël. Celui qui est voué aux tâches matérielles. Et voilà, il va choisir d'être Rachar. Il va choisir d'être Rachar. Et celui qui est voué aux tâches spirituelles, grâce à lui, il a choisi d'être Tzadik. Alors, Rivka intervient. Le rêve d'Isaac était, on va bénir l'homme de la matière par la matière, l'homme de l'esprit par l'esprit, partageons. Erika sait que ces deux manières d'être ne s'aiment pas, il n'y a pas d'espoir, et qu'ils seront perdus tous les deux, il n'y aura jamais de collaboration, et l'histoire l'a montré. Alors elle réclame qu'Israël procède de Jacob, seul Jacob peut être Israël. Un Ésaü devenant Israël, on sait ce que c'est dans l'histoire, c'est l'échec du christianisme. Okay, l'homme de la matière s'occupant de la prophétie. C'est la mort dans la vie. Alors que l'homme de la prophétie s'occupant de la matière, c'est la vie dans la mort. C'est l'inverse. Et c'est pourquoi l'histoire a montré que c'est Jacob qui devient Israël, c'est pas Ésaü. Mais tant que Jacob n'est que Jacob, on est en attente. Alors il y a au niveau de Jacob une crainte, une panique de devenir Israël. Pour ça, il faut prendre les mains d'Ésaü. Cacher. Et c'est clair? Voilà, ça vous éclairer. Je n'ai même pas besoin de vous identifier les personnages. Okay? Alors, la fois prochaine, je vais vous demander, on va étudier ça sur le texte. Vous allez noter les références. Et prendre un moment pour les lire, il y en a beaucoup. Lisez toute la paracha de Toldo. Ça, lire. Mais étudiez, vous étudierez le verset 27 du chapitre 27, et puis le verset 4 du chapitre 28. Quel est le titre ? Bon, on a encore un peu de temps, si vous avez des questions. Est-ce que c'est clair ce que j'avais entendu ? Quel ?
Je n'ai pas finalement très bien compris si vous me dites que de toute façon, un homme ne peut pas bien posséder les choses de l'esprit et les choses de la matière. Est-ce qu'il y a une possibilité quand même pour y arriver, pour considérer ça comme un seul être humain ?
Très bien. Alors, vous trouvez par la suite comment sera constituée la société d'Israël. Il y a 12 tribus d'Israël et la tribu de Lévi. Et s'il y a collaboration de la tribu de Lévi et 12 tribus d'Israël, le problème est réglé. Et en particulier le prophète Malachi, qui montre bien que tout dépend de la solidarité entre les tribus et la tribu de Lévi. Dans le plan de la Torah préalable, primordial, qui se réalisera qu'à la fin des temps, c'est les nations du monde qui doivent s'occuper des tâches matérielles, les civilisations, et Israël doit être le peuple de prêtre. Et s'il y a collaboration entre les deux, l'humanité est sauvée. Étant donné que l'humanité a refusé son rôle d'Israël, c'est rejoué à l'intérieur d'Israël. Les 12 tribus, c'est les tâches matérielles selon la Torah, et la tribu de Lévi, les tâches spirituelles selon la Torah. Et c'est ensemble que le problème est résolu. C'est clair ce que je dis là ? Maintenant, il y a le cas exceptionnel d'individus d'élite qui sont capables d'être l'un et l'autre, mais c'est exceptionnel. Par exemple, un cas comme Maïmoni, un grand ami Chacham et un grand médecin. Les deux tâches parlent bien. Mais qui est Maïmoni ? Maïmoni. C'est clair ? Les Juifs, c'est les Juifs. Maïmoni, c'est Maïmoni. J'ai compris. Et alors, nous savons que cet idéal, à la fois l'esprit et la matière, c'est possible, mais le cas exceptionnel de gens comme Emmanuel. Dans la réalité, c'est la collaboration entre Judas et Joseph. Joseph, c'est un Ésaü cachère, un homme de la matière, le gérant de l'Empire, tzadik. Comme quoi c'est possible, okay. Et Judas, c'est le fils de Jacob, voué à la Torah. Et quand Judas et Joseph font la paix, c'est ça Israël. Tant que Judas n'est que Judas, il n'est que Judas. Tant que Joseph n'est que Joseph, c'est que Joseph. Et quand ils sont ensemble, c'est ça Israël. Et c'est ce qui se cherche dans la société israélienne aujourd'hui. L'alliance entre Judas et Joseph. Mais si Judas prend Joseph pour un traître, et Joseph prend Judas pour un cinglé, ça ne marche pas. Alors, il n'y a qu'un milieu où ça marche. C'est vous savez où c'est. Si on est capable d'être à la fois avec Joseph et Judas. Ça vous habituera à décrypter tout ça. Okay. T'es clair ? J'ai eu des élèves dans ma longue carrière. Et je me rappelle un qui était, pouvait être un génie en mathématiques. Et alors, en mathématiques, après 25 ans, on est déjà un vieillard. Hein. C'est jusqu'à 25 ans à peu près qu'on acquiert la maîtrise et après, ça monte. Cet élève, je ne dirais pas les noms, bien sûr, mais vous avez rencontré ça dans les rues de Nebrak en milliers d'exemplaires. Il a dit non, je vais être un grand de la Torah. Je dis écoute, d'après ce que je vois, tu peux être un grand des mathématiques. Et un petit de la Torah. Alors je préférerais pour toi que tu sois un grand mathématique, un homme pieux. Ça donnera honneur à la Torah. Et alors tu feras tes mathématiques 23 heures par jour, et une heure par jour, tu as de Torah. Un petit peu de Torah. Ça suffit pour être un homme pieux. Mais non, je vais être un grand latin. Bon, c'est la magière de boucherie. Okay. Il a fait 15 ans de yeshiva, il n'est pas capable d'être plus que magière de boucherie. Alors qu'il aurait pu être une lumière en mathématiques. Mais c'est pas ça. Voilà un exemple. Vous avez compris ce que quelqu'un qui peut être un grand artiste et cachère dans sa vie, étudiant un peu pour étudier, on ne peut pas rester comme une bête, mais un grand artiste faisant honneur à la Torah. Non, il a préféré d'être processus. Une petite, je ne sais pas, fais du commun, rien du tout. Un petit ami de Torah qui s'appelle Yeshiva. Et il est malheureux pour toute sa vie. Vous avez compris le drame de ces gens-là. Alors pour être un grand Torah, ça existe, mais c'est pas n'importe qui. J'ai compris ce que je suis en train de dire. C'est un orgueil monumental de croire, parce qu'on a enseigné l'alphabet à l'endroit à l'envers, que c'est ça la Torah. C'est ridicule. Alors que ces mêmes gens, qui ne peuvent être que des apprentis Torah, peuvent être des grands de la civilisation, selon la Torah. Tu as compris le problème? Maïmonide, il y en a un. 2,5, bon, en 2000 ans, pas plus. Et il faut lire Maïmonide. Lire Maïmonide, vous voyez ce qu'il dit de ça. Et comment il se montre des gens qui font semblant de faire semblant.
Ça veut dire aussi que les comportements du succès transversal aussi de la société italienne aujourd'hui, ça veut dire aussi que les juifs, comme l'histoire de Dieu, en tant que chef d'Israël qui essaie de développer le pays, peut-être sans.
Ben, je vois que le petit train est arrivé, t'as compris. Mais je veux dire qu'il ne faut pas généraliser. Dans ces milieux-là, quelle est l'erreur? C'est de faire semblant que les petits sont des grands. Il y a des grands, et ils doivent être que Torah, mais liés à leur peuple, pas enfermés chez les petits. Est-ce que c'est clair, celui-là? C'est clair, celui-là. Alors, je vais vous donner une image. Réfléchissez bien à ça, c'est plus qu'une image. Pour faire du pain, on prend de la farine et du levain. Et on mélange le levain à la farine, on met de l'eau, ça fait du pain levé. Mais si vous prenez le levain d'un côté, la farine de l'autre, vous faites du pain avec le levain, c'est un pain aigre, et la farine ne lève pas. C'est ce qui se passe. Ils ont pris tout le levain pour faire du pain, c'est un pain aigri, et la farine ne lève pas. Vous avez compris l'image? Alors, bien sûr que chacun est un cas individuel. Okay. Et, je ne sais pas comment dire, quelqu'un pour qui c'est mieux d'être à l'abri chez les tzadikim, eh bien, c'est mieux pour lui d'être à l'abri chez les tzadikim. Okay. Ça veut dire qu'il est en traitement. Okay. Mais quelqu'un qui dit je me prépare pour la vie, mais il reste dans les préparations toute sa vie, c'est mieux. Ça me rappelle, une image. Vous savez que chez les Ashkenazim, on a pris l'habitude dans la prière de se balancer. Chez les Sfaradim, c'était interdit. Sauf pour ceux qui savent ce qu'ils font. Je me rappelle quand j'étais jeune, à la synagogue, quand quelqu'un qui se croyait pieux commençait à se balancer, on le regardait aussi continuer par la fenêtre. Et alors, un jour, on raconte ça chez les chassidim. Il y a Rosh Yeshiva qui rentre dans la salle Yeshiva à l'aide de la de Mincha. D'habitude, il priait devant le mur, sur son hamoud, puis là. Et là, il rentrait quand on commençait la Amida. Alors, il s'est arrêté. Il a vu tous ses élèves prier. Il a vu des gens gesticuler. Bon. Il a attendu qu'ils finissent. Il s'approche. Qu'est-ce qu'on fait? Il en fait comme toi. Il a dit, mais moi, je sais ce que je fais. Depuis, il n'a plus bougé. Et je vais parler un peu de ça. Ces mouvements de balancement dans la prière, c'est une science pour elle-même qui s'est perdue, la science des carrément. Et lorsque la gesticulation désordonnée, parce que quelqu'un qui se débat pour sortir de la boue, okay, il se débat pour s'en sortir, il va se moquer de lui. Mais c'est très trouble au point de vue psychique. On ne sait pas si c'est des pulsions sexuelles ou spirituelles qui se défoulent là. Vous comprenez bien ce que je dis, c'est quoi les rabbins interdisent? À moins que ce soit des gestes nobles, lents, et qu'on sait quels sont les cadres qui vont avec. Ces espèces de gesticulation, c'est du désordre psychologique. Je parle en sfaradi, okay. Et vous savez, je m'appelle Ashkenazi. Et alors, pourquoi je vous attendais tout ça? À la suite de quelle question? J'avais un prof de, comment on appelle ça, français complet, les humanités, oui, qui nous disait, quand on est poète à 17 ans, c'est qu'on a 17 ans. Si on est poète à 70 ans, c'est peut-être qu'on est poète. Vous avez compris ? fait un peu transposer ça. Quand on est mystique à 17 ans, c'est qu'on a 17 ans. Si on est mystique à 70 ans, c'est que peut-être on est mystique. Sinon, c'est qu'on est psychique. C'est autre chose. Vous avez compris le problème ? Ah mais je vous dis que c'est... Et alors, ce que je veux dire, c'est... Quelqu'un qui dit, j'ai besoin de me préparer, je suis à l'abri là où je me prépare. Ben c'est très bien, prépare-toi. Mais s'il se prépare toute sa vie, c'est suspect. C'est le levain qui devient du vinaigre. Vous voyez, c'est clair ? Ah oui, je vous parlais du balancement. Alors voilà ce que j'ai oublié. C'est que c'est la halakha. La halakha, c'est la marche à suivre. C'est la même racine que halikha, la marche. Et alors, vous avez des gens qui disent « je marche », mais ils restent sur place. Ah, ils finissent par se balancer, puisqu'ils marchent sur place. De quoi je fais ? C'est pour ça que je vais me citer. Les Antonies font une jolie chose. La halakha, c'est comme la bicyclette. Tant que ça marche, vous tenez droit. Dès que vous arrêtez, vous tombez. Vous comprenez ? La halakha, ça ne peut pas s'arrêter. C'est comme la bicyclette. On tombe. Hein ? Voilà, c'est le drame de ces deux jumeaux. Il n'y a que Jacob qui est Israël, quand il a le courage d'être Israël. Tant qu'il a Jacob, c'est Ésaü qui triomphe. Et ça fait toute l'histoire juive de l'exil. Jacob, c'est le juif du ghetto. Voué à l'esprit et que ça. Et qui est voué à la cité ? Le goy. Ah oui, la révolution qu'il y a avec le sionisme. Alors c'est la raison pour laquelle les jacobins sont contre. Une fois je dis qu'il y a ça avec le grand rabbin d'Angleterre, l'ancien grand rabbin d'Angleterre, il vient de prendre sa retraite, etc. Et quand il a compris ce que je voulais lui dire, parce que j'étais un anti-sioniste farouche, il s'est rendu compte qu'il s'appelait Yakubovitch. Je ne sais pas si tu connais. Et tu vois, toi tu es fils de Jacob, moi je suis Israël. Yakubovitch, c'est ça. Et encore une fois, il n'y a que Jacob qui peut être Israël, à condition qu'il soit Israël. Mais tant que c'est Jacob avec Ésaü, c'est provisoire, c'est en attente. Alors on a attendu 2000 ans. Et voilà, il y a une partie de Jacob qui devient Israël, alors l'autre partie de Jacob, ça ne lui fait pas plaisir. Vous avez compris à quel point on est différent ? Est-ce que c'est clair ? Bon, alors lisez la Torah, ne lisez pas les journaux. Haredim. Là-bas, vous n'avez que de la... je ne sais pas comment dire ça. Comment on dit ça en français ? La piété de sacristie. La bonne raison. Alors que la Torah, c'est la Torah. Rien à voir. J'espère que vous allez faire un peu. Non, je sais que je crois que assurément. Il n'y a rien de plus ridicule qu'un juif qui ressemble à un chrétien. C'est ridicule. Un juif doit être israélien. Rien à voir. Alors, oui, ce qui est en travail dans le temps actuel, les sources de la Torah. En tout cas, préparez bien ces textes pour la prochaine fois, on les verra sans plus en détail. Préparez vos questions et évacuez les fausses questions. Top, à la Shabbat Shalom et à la Shabbat Shalom.